Un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 16 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. L'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes pour corruption. Au Gabon, incarcération du maire de Libreville, inculpé pour détournement de fonds publics. Le président guinéen Alpha Condé a prorogé d'un mois l'état d'urgence sanitaire. Le FNDC appelle à des manifestations à la fin du mois. L'ouragan Sally balaye le sud-est des États-Unis, provoquant des inondations avec des vents de 165 km/h. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, a été condamné à Paris à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour son implication dans un réseau de corruption pour cacher des cas de dopage d'athlètes russes. Le point avec Jacques Aristide.
Ressorti libre à l'issue de la lecture du jugement, le Sénégalais de 87 ans a annoncé par la voix de son avocat qu'il ferait appel. Il a été reconnu coupable de corruption active et passive et d'abus de confiance et a été condamné à une amende maximale de 500 000 €. Lamine Diack a la possibilité de faire appel. Parmi les 6 prévenus, tous reconnus coupables, la peine la plus lourde a été prononcée contre son fils, Papa Massata Diack, qui est resté à Dakar et avait refusé de comparaître au procès en juin. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme et 1 000 000 € d'amende et le tribunal a maintenu le mandat d'arrêt à son encontre. Des peines de prison ont été prononcées à l'encontre des autres protagonistes, 2 ans avec sursis et 140 000 € d'amende pour l'ancien chef de l'antidopage à l'IAAF, Gabriel Delay, et 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 100 000 € d'amende pour l'avocat Habib Sissé, qui conseillait Lamine Diack. 2 responsables russes jugés en leur absence, l'ancien président de la Fédération nationale d'athlétisme, Valentin Balitnitchev, et l'ancien entraîneur Alexei Melnikov ont été condamnés respectivement à 3 et 2 ans de prison ferme avec maintien du mandat d'arrêt à leur encontre.
Au Gabon, le maire de Libreville est incarcéré. Il est inculpé de corruption et détournement de fonds publics. Le point avec Nani Talani.
Selon la justice, Léandre Nzoué, 63 ans, maire de Libreville depuis février 2019 et membre du Parti démocratique gabonais au pouvoir, a été placé sous mandat de dépôt hier soir. Il a été inculpé par un juge d'instruction de 11 chefs, dont association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, extorsion de fonds, concussion, corruption passive et chantage. Son avocat Jean-Paul Mumbembe a confirmé que son client a été placé sous mandat de dépôt après avoir été hospitalisé lundi à la suite d'un malaise lorsqu'il était déféré au tribunal après 2 jours de garde à vue. Le procureur de Libreville, André-Patrick Robna, a assuré qu'un rapport médical indiquant un état général de santé normal de M. Nzoué a été établi par un médecin après 24 heures d'observation à l'hôpital. Le maire lui-même avait signé une décharge avant d'être amené de nouveau au tribunal pour être inculpé, tout comme 2 de ses collaborateurs. Le gouvernement gabonais a lancé début novembre 2019 une vaste opération anticorruption baptisée Scorpion qui a mené à l'incarcération de Brice Lacruche Alionga, directeur de cabinet d'Ali Bongo et de plus d'une dizaine de ses proches, dont 3 anciens ministres.
En République démocratique du Congo, 3 hommes accusés d'avoir violé 2 infirmières et dépouillé des malades dans un centre de santé ont été condamnés à 20 ans de prison à Kinshasa. 2 prévenus ont été acquittés et 3 autres renvoyés devant un tribunal pour enfants. L'avocat de la défense a indiqué qu'il ferait appel du verdict de ce procès en flagrant délit qui s'est tenu 3 jours après les faits. Selon maître Luz Mouzemboué, les vrais coupables courent encore dans les rues.
Au Nigeria, les djihadistes ont attaqué mardi deux villages de l'état de Borno, tuant 11 personnes. Des combattants motorisés affiliés à l'état islamique en Afrique de l'Ouest ont ouvert le feu sur des habitants de Ouazzaram et de Ono, qu'ils soupçonnaient d'avoir informé l'armée de leur mouvement alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer la ville voisine de Ngambou, selon un chef de milice d'autodéfense. Le président guinéen Alpha Condé a reconduit pour un mois l'état d'urgence sanitaire instauré en mars contre la pandémie de Covid-19. Le point avec Abdourahmane Dia.
Une ordonnance lue à la télévision nationale permet au président guinéen de maintenir des mesures exceptionnelles à un mois de la présidentielle. L'état d'urgence est en vigueur depuis le 26 mars. Il s'est traduit par des dispositions comme la fermeture des frontières et des écoles qui ont depuis été levées ou allégées, mais aussi par des restrictions à la vie publique et au rassemblement. La Guinée a déclaré officiellement plus de 10 000 cas de contamination et 63 décès. Mais les défenseurs des droits humains et l'opposition ont accusé les autorités de se servir de la pandémie comme prétexte pour réprimer la contestation dans une année électorale tendue, avec une présidentielle prévue le 18 octobre. L'opposition a fait descendre des milliers de Guinéens dans la rue pour protester contre un troisième mandat du président Alpha Condé. La contestation a donné lieu à des heurts, des dizaines de civils ont été tués.
L'opposition guinéenne a appelé ce mercredi à des manifestations à partir du 29 septembre pour exiger le départ de Alpha Condé, a déclaré Abdourahmane Sano, un dirigeant du collectif qui mobilise depuis des mois contre un éventuel troisième mandat de M. Condé. Le gouvernement togolais a décidé de proroger de 6 mois l'état d'urgence sanitaire, a annoncé le premier ministre Selom Kommy Klassou. Les députés togolais ont approuvé à l'unanimité la demande du gouvernement. L'état d'urgence décrété en avril avait déjà été prolongé début juillet. De son côté, la Tanzanie a annoncé qu'elle levait l'interdiction de voyager imposée aux compagnies aériennes kényanes au lendemain de la suppression par Nairobi de l'obligation de quarantaine pour les voyageurs tanzaniens. Au Maroc, plus de 2250 établissements scolaires sont fermés en raison de risques de contamination, selon le ministère de l'Éducation, ce qui représente 950 000 élèves sur les 7 millions qui devaient faire leur rentrée en septembre. Plus de 2000 nouveaux cas quotidiens d'infection ont été recensés ces derniers jours. Les contrôles policiers ont été renforcés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui implique un couvre-feu et des restrictions de déplacement. La Tunisie s'est dotée d'un conseil de presse chargé d'écrire un code déontologique et de veiller à son application. Ce conseil est dirigé par un organe de 9 membres, incluant des journalistes, des patrons de presse et des représentants de la société civile. L'ambition est d'avoir des médias favorables à la démocratie, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, a déclaré le président du syndicat des journalistes, Neji Bougri. La commission électorale des Seychelles a retenu la candidature de 3 prétendants à l'élection présidentielle fin octobre, qui mettra le président sortant Danny Faure aux prises avec 2 rivaux, dont le chef de la majorité à l'Assemblée. Les Seychelles connaissent une cohabitation depuis 2016.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ouragan Sally touche le sud-est des États-Unis. Des vents violents, coupures d'électricité et inondations ont été signalés dans l'Alabama et en Floride. Plus de détails avec Mouamadou Oumfa.
Au petit matin, les rues de la ville de Pensacola et ses quelques 50 000 habitants à l'extrême nord-ouest de la Floride ont été transformées en torrents. À une 40 kilomètres de là, dans l'Alabama, la marina de la ville baléaire d'Orange Beach a été balayée avec des bateaux de plaisance déplacés par les vents jusque sur les quais au milieu des débris. Les autorités du comté de Baldwin, où se trouve Orange Beach, ont alerté ce matin d'une situation extrêmement dangereuse et recommandé aux personnes ayant pu se réfugier en hauteur dans les zones inondées de ne pas bouger. L'ouragan a aussi provoqué des dommages importants autour de la ville de Mobile, a signalé l'entreprise Alabama Power, dont plus de 150 000 clients sont privés de courant. Au total, selon le site powerrotage.com, plus de 270 000 foyers n'ont plus d'électricité dans l'Alabama ainsi que 230 000 foyers en Floride. Sally traversera le sud-est de l'Alabama et le nord-ouest de la Floride jusqu'à demain matin avant d'arriver sur le centre de l'État de Géorgie selon le Centre national des ouragans.
Les incendies qui ravagent l'ouest des États-Unis sont des centaines de fois plus intenses que ces 15 dernières années, avec une fumée très épaisse qui a même atteint l'Europe, selon le service sur le changement climatique Copernicus. Les feux de Californie et de l'Oregon ont déjà relâché dans l'atmosphère plus de 28 mégatonnes de carbone et plus de 2 millions d'hectares de végétation ont été consumés de la frontière canadienne à celle du Mexique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire veut construire une usine de stockage de gaz butane de 12 000 tonnes pour 23,9 milliards de francs CFA pour renforcer ses capacités nationales de stockage, garantir l'approvisionnement, freiner la déforestation et sauvegarder l'environnement. L'infrastructure sera réalisée par Sahara Petrosi Energy SA, une joint venture née du partenariat entre Sahara International et Petrosi, la société publique du pétrole. Sahara contrôlera 65% des intérêts de la co-entreprise et Petrosi 35%. Le FMI demande à la RDC un budget réaliste pour 2021 et la nomination d'un conseil d'administration pour la Banque centrale. Ces conditions, y compris la transparence dans les contrats miniers, constitue le préalable pour des négociations menant à un programme dit de facilité élargie de crédit avec le FMI. En 2020, le gouvernement congolais misait sur un budget d'environ 11 milliards de dollars, deux fois supérieur à celui de 2019 et que le FMI avait jugé irréaliste. Pour terminer, les États-Unis ont critiqué l'Organisation mondiale du commerce, la jugeant totalement inadéquate pour mettre fin aux pratiques commerciales de la Chine, jugée déloyale et qui avait amené Washington à imposer des tarifs douaniers punitifs contre Pékin. L'OMC a jugé ces taxes contraires aux règles du commerce international. L'administration Trump ne permettra pas à la Chine d'utiliser l'OMC pour profiter des travailleurs, des entreprises, des agriculteurs et des éleveurs américains, a décidé Washington.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Deux joueurs du Racing Club d'Abidjan, Thomas Trazier, milieu de terrain de 21 ans, et Armel Zouri, latéral droit de 19 ans, ont signé un contrat de 3 ans avec le club français de l'OGC Nice. Nice est le club champion de Côte d'Ivoire, fondé par l'ancien joueur Souleymane Cissé, se sont engagés dans un partenariat il y a 2 ans. De son côté, le milieu de terrain de l'Apollon Limassol, le Togolais Serge Baké, a définitivement quitté Nantes pour signer un contrat d'une saison avec le club chypriote. Patrice Carteron quitte le banc du Zamalek d'Égypte à 1 mois de sa demi-finale de Ligue des Champions. Le technicien français a signifié son départ au club alors qu'il est lié au Zamalek jusqu'en juin 2021. Le coach serait même prêt à verser des indemnités de départ et la presse égyptienne parle de 250 000 dollars pour se libérer de son contrat. Le Zamalek affronte le mois prochain le Raja Casablanca en demi-finale de Ligue des Champions CAF. La pandémie de Covid-19 pourrait coûter 14 milliards de dollars au football mondial. C'est ce qu'a annoncé Oli Rehn, vice-président de la commission de gouvernance de la FIFA. Entre les perturbations de calendrier, les stades vides et les pertes de droits télévisés, cette estimation couvre la totalité de l'économie du football pour les 211 associations membres de la FIFA, formations et équipes de jeunes incluses, a expliqué le Finlandais. Plus de 150 associations membres ont déjà sollicité le plan d'aide de la FIFA, doté de 1,5 milliard de dollars mêlant subventions et prêts. D'après Oli Rehn, la demande de subventions est très forte, dépassant celle de prêts, alors que la FIFA prévoit d'accorder jusqu'à 1,5 million de dollars par association membre et jusqu'à 2 millions de dollars par confédération. Basketball, Nick Nurse, désigné entraîneur de l'année en NBA, a prolongé son contrat avec les Toronto Raptors. 4 jours après avoir été éliminé en demi-finale des playoffs NBA par les Boston Celtics, Nurse s'est engagé pour une prolongation pour plusieurs années, a indiqué le club canadien, sans donner plus de détails. La saison passée, sa première à la tête de l'équipe fut couronnée par le premier sacre de l'histoire de la franchise. Aux dépens des Golden State Warriors, les Raptors ont effectué une excellente saison régulière, finissant à la deuxième place de la conférence Est avec un bilan de 53 victoires et 19 défaites. Le meilleur pourcentage de victoires de leur histoire, 73,6%. En play-off, ils ont atteint les demi-finales pour la cinquième saison consécutive, mais dans la bulle de Disney World, ils ont dû céder au septième match d'une série très serrée avec les Celtics.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, les poissons frais et autres aliments, notamment les légumes et les crudités, sont souvent étalés à même le sol pour la vente, sans aucune mesure d'hygiène appropriée dans la plupart des marchés de N'Djamena, où plusieurs quartiers sont inondés actuellement. La consommation de ces produits est source de maladies, soulignent les spécialistes. Un reportage de notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodmajingar.
Dans la ville de N'Djamena, les marchés aux poissons et autres crudités se créent de façon anarchique aux abords des rues. La gestion échappe très souvent aux autorités communales et le non-respect des règles élémentaires d'hygiène se pose avec acuité. Les poissons frais ou fumés, les légumes, les aliments accessibles aux citoyens lambda et l'état d'immondice ainsi que les eaux stagnantes s'entremêlent. Les vendeurs sont conscients du danger mais évoquent l'insuffisance de places à l'intérieur des marchés pour justifier l'occupation des espaces publics.
Ici au marché Taradona, par exemple, nous, vendeuses de poissons frais et fumés, nous sommes très nombreuses. Et les tables construites pour nous à l'intérieur du marché sont insuffisantes. C'est pourquoi nous étalons les poissons frais sur le plastique dehors ici pour vendre dans cette condition peu hygiénique. Nous-mêmes, on n'arrive pas à respirer, mais on n'a pas le choix.
Une cliente rencontrée dans l'un des marchés de la commune du 7e arrondissement déplore elle aussi les conditions dans lesquelles se vendent ces produits qui sont le principal menu des citoyens ordinaires.
Ce sont ces aliments-là que nous consommons. Alors, comme ce n'est pas à consommer non cuit, il faut prendre le temps de bien cuire pour que ces poissons-là puissent être débarrassés des microbes.
Le maire deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mohamed Salih Ibrahim, reconnaît qu'il y a manque de volonté concernant l'entretien des marchés chez les commerçants et du côté des autorités communales.
Chaque matin, quand un commerçant arrive, il va d'abord nettoyer sa devanture et de prendre tout ce qui est les ordures pour déposer au niveau des bacs à ordures avant de s'installer. Malheureusement, les commerçants, ils déposent encore sur les rues. Pour eux, c'est la mairie qui va faire. En réalité, les gens ne respectent plus hygiène et assainissement. De deux côtés, il y a des failles. Au niveau de certains marchés, les rues qu'on a aménagées, c'est devenu un marché. Je demande à mes mamans, mes sœurs, de nous comprendre aussi dans ce sens.
Le délégué sanitaire de la province du Borku, Dr Saleh Korey, parle des maladies liées à la consommation de ces produits et conseille l'hygiène corporelle.
La fièvre typhoïde dont tous les Tchadiens souffrent chaque jour. Les dysenteries, surtout salmonelle et cigolose, ce sont maladie très dangereuse. Si on a besoin de consultation, là, c'est ça même. Au 4, si on dit que presque 20% des enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans, là, c'est lié à la diarrhée. Il faut vraiment l'hygiène corporelle en général et l'hygiène environnementale. Parce que les gens n'ont pas de choix. Parce qu'il faut vraiment acheter ces produits-là. Et ils sont la source de tous les problèmes, mais en même temps, c'est le seul aliment disponible maintenant. C'est un vrai danger.
Les risques sanitaires sont bien là et le COVID-19 ne vient pas assainir la situation. André Kodumadjinga N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les Nigérians protestent contre la hausse des prix de l'électricité et du carburant en pleine crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Les autorités maintiennent que les nouveaux tarifs ont été adoptés dans l'intérêt du pays. Un reportage de Timothée Obiezu à Abuja, le récit est de Lionel Gaïma.
Les manifestants sont nombreux dans les rues menant à la commission de réglementation de l'électricité à Abuja. Ils réclament l'annulation immédiate de la hausse de prix de l'électricité et du carburant. Le gouvernement a presque doublé le coût de l'électricité ce mois-ci et supprimé la subvention sur le carburant, provoquant une flambée de prix de l'essence. Sidney Ousmane est l'organisateur de cette manif à Abuja.
It is anti-human.
C'est inhumain, antidémocratique, anti-peuple, et cela ne vise qu'à soumettre la population à des épreuves plus dures. Pas en ce moment où nous nous remettons juste de la pandémie. Des emplois ont été perdus, des moyens de subsistance ont disparu, des entreprises sont plombées. Comment allons-nous survivre ?
La plupart des entreprises dépendent de l'énergie électrique ou de l'essence pour fonctionner. À cause de la pandémie, elles sont déjà à l'arrêt ou fonctionnent au ralenti. Amina Aminou, qui dirige une société d'embouteillage d'eau à la périphérie d'Abuja, dit que cette hausse va forcément affecter les coûts de production et sa marge de bénéfice.
All the capital we inject.
Tout le capital que nous injectons ira au diesel et à l'essence. Donc il n'y a pas de profit. Parce que normalement, pour transporter l'eau en bouteille, nous utilisons du diesel et de l'essence. Et nous utilisons aussi de l'essence et du diesel pour alimenter nos générateurs pour la production.
De nombreux Nigérians accusent les autorités d'être insensibles aux difficultés causées par la pandémie de coronavirus. Les autorités affirment, de leur côté, que la hausse des coûts de l'électricité et la suppression de la subvention carburant vont renforcer le secteur énergétique et assurer des plus longues heures d'alimentation électrique. Ils disent aussi assurer un approvisionnement en carburant sur toute l'année, malgré les fluctuations du marché. L'expert en énergie Odion Omonfoman soutient la décision du gouvernement, estimant que le Covid-19 a laminé les sources des revenus du pays.
Crude oil prices are main earner.
Les prix du pétrole brut, notre principale source de revenus, ont été assez bas. Le gouvernement nigérian a du mal à obtenir des recettes pour équilibrer son budget et ne pas se permettre des subventions sur le carburant. C'est donc un pas dans la bonne direction. À mon avis, c'est un mal nécessaire que nous devons supporter.
Au cours de la dernière décennie, le Nigeria a dépensé 22 milliards de dollars en subventions sur le carburant. Les autorités produisent également de l'électricité à un coût beaucoup plus élevé que celui facturé aux consommateurs. Les experts disent que les fonds de subvention pourraient être utilisés dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais les manifestants ici se disent résolus à rester dans la rue jusqu'à obtenir gain de cause.
Abdourahmane Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, Israël normalise ses relations avec deux pays arabes, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, sous l'égide de Washington. Jusque-là, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à entretenir des relations diplomatiques avec l'État hébreu, la question palestinienne étant le principal obstacle. Que signifient ces derniers accords de normalisation pour la région et les États-Unis? Qu'en est-il de l'Afrique quant au conflit israélo-palestinien? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La prochaine grande date à inscrire au calendrier politique américain est le 29 septembre, le jour où se tiendra le premier des trois débats entre le président Donald Trump et son adversaire Joe Biden. Des débats qui ne peuvent se passer de la personne modératrice, chargée notamment de répartir un temps de parole égal entre les candidats. Steve Riddich de La Voix de l'Amérique revient sur le rôle de ce fameux modérateur lors des débats présidentiels. Le récit de Jacques Aristide.
Alors que les projecteurs sont braqués sur les candidats pendant le débat, le journaliste modérateur fait plus que poser des questions. John Koch est directeur de débat à l'université de Vanderbilt.
Je pense que le plus important pour le modérateur est le suivi, n'est-ce pas ? Après les réponses, il faut connaître les questions de relance appropriées à poser.
D'éminents journalistes sont choisis comme modérateurs par la commission non partisane sur les débats présidentiels. Feu Jim Lehrer, qui fut présentateur au Public Broadcasting Service, a animé 12 débats présidentiels, le plus grand nombre à ce jour. Mary-Kate Carey est du Miller Center de l'Université de Virginie.
Si quelqu'un dit, vous savez, j'ai un plan en 7 points, le modérateur dirait, eh bien, donnez-moi vos 3 premiers points.
Toujours selon Mary-Kate Carey, Jim Lehrer rencontrait les candidats avant le débat pour expliquer comment il allait appliquer les règles. Il tenait à faire part de ces règles au public également.
Jim Lehrer disait que si vous posez une question longue et compliquée, vous obtiendrez une réponse longue et compliquée. Et alors, il aimait demander, par exemple, des choses comme « À quoi ressemble une bonne affaire ?» ou « Êtes-vous d'accord avec ça ?»
Et que faire si un candidat dit quelque chose de faux ? Mary-Kate Carey, de nouveau.
And if candidate A started violating the rules,
et si le candidat A commence à violer les règles et dépasser son temps de parole ou empêcher les autres de parler, le public s'élèvera contre ce candidat A parce que le public connaît déjà les règles. Et cela permettra au modérateur de dire plus facilement « Excusez-moi, c'est une violation des règles, passons maintenant à autre chose ».
Jennifer Mutchie est professeure de communication à l'Université de Texas A&M.
En 2012, il y a eu une énorme polémique avec Candy Crowley. Elle avait vérifié les propos de Romney pendant le débat.
Je veux m'assurer que le public le sache, car il a fallu au président 14 jours avant de qualifier l'attaque de Benghazi d'acte de terrorisme.
Pour les débats présidentiels 2020, les modérateurs ont été sélectionnés. Chris Wallace de Fox News va animer la première joute le 29 septembre. Il était modérateur en 2016. Steve Scully de la chaîne de service public câblé C-SPAN va lui présenter le deuxième débat en forme de forum citoyen. Et le troisième sera animé par Christine Welke qui couvre la Maison-Blanche pour NBC News. Pour sa part, Susan Page, chef du bureau de Washington de USA Today, sera chargée d'arbitrer les échanges lors de l'unique débat entre les candidats à la vice-présidence. Mary-Kate Carey se souvient du conseil de Jim Lehrer. Le journaliste ne doit pas devenir l'objet du débat. D'après elle, si après le débat on cite le modérateur, cela voudra dire que le modérateur n'a pas réussi à accomplir son rôle.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le journaliste indépendant cubain Roberto de Jesus Quiñones a été finalement réuni avec sa famille après une année de souffrance excessive en tant que prisonnier d'opinion à Cuba. Bien que soulagé par sa libération, les États-Unis réitèrent leur ferme condamnation de son injuste emprisonnement pour le simple acte de faire son travail, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration. Le 7 août 2019, le régime cubain a jugé Quiñones coupable des douteux chefs d'accusation de résistance et des désobéissances et l'a condamné à un an de travaux forcés. Sa détention et son jugement ont été marqués par un flagrant mépris des normes judiciaires. Les autorités cubaines ont informé Quiñones des chefs d'accusation retenus contre lui que quelques minutes avant le procès et ne lui ont pas permis d'avoir un avocat. Les procureurs du régime cubain ont empêché Quiñones de présenter les preuves de ses blessures aux mains de la police qui l'a arrêté. En mars, il s'est vu refuser la liberté conditionnelle. Il est honteux que le régime cubain incarcère un journaliste dont l'unique crime est de travailler pour une société plus transparente, a dit le secrétaire d'État Pompeo. Cela ne surprend pas non plus. Le régime cubain use de toute excuse pour museler ses critiques et violer les droits humains, y compris les droits à la liberté d'expression et les garanties d'un procès équitable.
Cuba demeure le pays au climat le plus restrictif des Amériques en matière de presse, selon le Comité pour la protection des journalistes. La même organisation classe Cuba parmi les 10 pays qui ont le plus recours à la censure. Les médias écrits et audiovisuels sont entièrement contrôlés par le gouvernement communiste cubain et légalement doivent être en conformité avec les objectifs de la société socialiste. Les États-Unis appellent leurs partenaires démocratiques à travers le monde à faire du respect des droits humains, y compris la liberté de la presse, une condition de toute relation avec Cuba.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.